Il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Deux invités aujourd'hui, Amaury Bunguen et Lloyd Sherry. Alors, Amaury Bunguen a développé un imaginaire en tant qu'auteur dans ses deux premiers livres, Yonmund, un récit de SF sombre où Lupo, un homme, erre seul dans un vaisseau gigantesque, et Le Rite, récit d'héroïque fantasy sombre, débarrassé de ses clichés, récit sur la violence tribale expansionniste et le pacifisme non naïf. Avec Vertigéo, Amaury Bunguen collabore avec un scénariste, Lloyd Sherry, qui signe son premier scénario. Cet auteur, journaliste des imaginaires, adapte la nouvelle d'Emmanuel Delporte, Vertigéo. Un récit sur les violences d'État et des nantis et sur le mensonge et la dictature. Nous serons avec Lloyd Sherry, puis Amaury Bunguen, je vais y arriver, à partir de 14h10. Une immersion dans leurs fables dystopiques. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, cette émission est dans les bonnes mains de Fabien. Et je vais commencer par une brève. Alors, c'est une expo, elle n'est pas près, c'est loin, c'est à Grenoble, mais c'est quand même pas si loin que ça. Ça se passe au couvent Sainte-Cécile, mais c'est quand même un événement. C'est l'exposition Glenn Baxter, sous-titrée « So British ». Et effectivement, Glenn Baxter est un auteur qui est né à Liverpool, si mes souvenirs sont bons, et qui a un humour très surréaliste, vraiment un adepte du non-sens qui est absolument réjouissant. Alors, cette exposition, elle a lieu jusqu'au 20 juillet. Elle a déjà commencé il y a quelques mois. Et ça se passe aux éditions Glénat, puisque le couvent Sainte-Cécile est un lieu qui appartient aux éditions Glénat. Et en partenariat avec la Fondation Salomon à Annecy et la Galerie Isabelle Gounod à Paris, qui représente Glenn Baxter, ils présentent une exposition qui comprend une trentaine d'originaux. Et rien que ça, c'est vraiment un événement. Parce que Glenn Baxter a fait du dessin légendé sa spécialité. C'est-à-dire qu'on a une image qui est traitée au dessin avec un travail de mise en couleur au crayon et le tracé à l'encre permet de donner une précision et une très grande lisibilité à chacune des images. C'est le contenu qui attire immédiatement l'œil, parce que la légende va mettre en perspective le dessin et ouvrir une sorte d'espace narratif et pictural, bien sûr, que le spectateur n'attend pas. Et Glenn Baxter est un artiste qui est exposé dans le monde entier, à New York, à Sydney, à Londres. Bien sûr, il illustre les prestigieux magazines tels que le New Yorker, The Independent ou On Sunday et Vanity Fair, rien que ça. Et on a quelques ouvrages, quelques catalogues de cet auteur qui sont traduits en français et très bien traduits. Donc jusqu'au 20 juillet, au couvent Sainte-Cécile à Grenoble, l'exposition Glenn Baxter, So British, et c'est plus précisément au 37 de la rue Servant. Bon, vous trouverez toutes les infos pratiques sur Internet, virgule. Alors cette émission va être marquée par la science-fiction, puisque le livre de nos invités est vraiment un récit qui relève de ce genre-là, mais pas que. Et donc je voulais encadrer ce livre avec d'autres récits, pas seulement de science-fiction, mais qui ont quand même des liens forts entre eux. Le premier, eh bien, c'est « No Love Lost » de Luca Oliveri, et c'est un format manga qui est paru dans la collection Combo, un label des éditions d'Argo, et qui est un label plutôt universel, qui cherche à croiser les formes narratives, à croiser les genres et les nationalités. C'est une tendance que l'on retrouve chez plusieurs éditeurs. Alors, de quoi il est question ? Eh bien, No Love Lost est un récit de science-fiction. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là, on est vraiment très loin dans dans l'espace, dans le temps, et donc on est sur des colonies de la Terre, et on découvre un groupe de TLM. C'est des tueurs de lune de miel, et on a une explication qui va être donnée en quatrième de couverture, et donc on part avec ça. Et puis cette explication, elle va pas vraiment prendre de consistance, puisque ce TLM, qui est donc un duo équipé d'armes surpuissantes, ils sont considérés comme de véritables héros de la civilisation spatiale, et le premier membre du duo est un soldat et issu de l'élite, et on va lui associer un partenaire. Donc on va découvrir ces TLM. Alors pourquoi ils s'appellent TLM, ces tueurs de lune de miel, on n'a pas vraiment de consistance dans le récit. Et donc on va se trouver avec ce duo qui a des armes assez impressionnantes. Et il y en a une qui s'appelle Elixir et l'autre qui s'appelle Yukan, et qui va, ils vont affronter différents, notamment au départ un vaisseau spatial, et c'est assez impressionnant. Donc on est dans un format manga, on adapte cette forme narrative. Il y a j'ai quelques réserves avec ce récit, et notamment sur le recours aux explications de textes pour définir une société, pour essayer de donner un peu plus de crédibilité au contexte. C'est un principe qu'on a eu beaucoup pendant, avec des bandes dessinées des années 70-80, où l'imaginaire graphique des auteurs était très fécond, mais leurs histoires, eh bien, passaient par des explications pour nous rappeler, nous faire comprendre que, eh bien, là, on est alors pour le cas dans No Love Lost, eh bien, on est en 2233, et l'humanité est une espèce interstellaire, et là, Luca Oliveri va se lancer dans des explications. Et on retrouve cette ambiance où, dès qu'on charge les pages de textes importants, bien on n'imprime pas forcément. Toute la difficulté pour le scénariste ou pour l'auteur qui va réaliser son scénario, c'est bien justement de mettre en œuvre les éléments apportés par ces plages de textes, et de faire comprendre ainsi le fonctionnement, la situation, à travers la vie et le quotidien des personnages. Alors ce qui est impressionnant, c'est que Luca Oliveri a deux fois recours à ce principe de la surabondance d'informations, et une autre fois, alors que Yukan arrive sur un autre univers, un autre endroit, eh bien, toute l'organisation de cette société qu'il va découvrir est faite justement avec cette dissémination des informations et ça passe beaucoup mieux. Alors, on est sur un dessin manga très incisif, un peu à l'énergie, avec une esthétique qui est dans la lignée de la bande dessinée japonaise, avec aussi une tendance au fur et à mesure que l'histoire avance à une simplification des décors et on a des villes qui deviennent un peu diaphanes parce qu'elles manquent vraiment de présence. Cette simplification est un peu dommage parce qu'il y avait dans le tandem entre Elixir et Yakun une qualité, une épaisseur qui aurait mérité peut-être plus de puissance ou plus d'attention, notamment graphique. No Love Lost de Luca Oliveri est paru donc sous le label Combo, c'est le tome 1, c'est donc publié par les éditions d'Argo et les 264 pages de cette histoire au format manga sont au prix de 13,50 €.
Orgasme tellurique, les secrets de la terre vont se révéler. Orgasme tellurique, comme une braise qui n'a du néant. Orgasme tellurique, je m'allonge dans cette communion. Orgasme tellurique, de plaisir interdit et l'onction. Je suis l'orage, le feu, le vent, je suis la tempête marche. Cette flamme exquise, je hurle. Orgasme tellurique, j'aspire le venin sacré qui brûle. Orgasme tellurique, je prends le plaisir et dévore le temps. Orgasme tellurique, de ce phallus irriguant tous mes sens. Je suis l'orage, le feu, le vent. Je suis la tempête parchemalisant. Je
Vertigeo est d'abord une nouvelle d'Emmanuel Delporte publiée dans le recueil Au bal des actifs, demain, le travail. C'est maintenant un roman graphique. Lloyd Cherry signe l'adaptation et le scénario. Journaliste, essayiste, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, il est producteur de l'émission C'est plus que de la SF. Il signe avec Vertigeo sa première bande dessinée. Amaury Bungen a fait de la bande dessinée son métier. Après Yonmu en 2021, récit futuriste où Lupo, un humain solitaire, erre dans un vaisseau gigantesque, fait face à la contamination d'un organisme hostile. Dans Rite, son deuxième roman graphique, il débarrasse le récit de toute machine pour créer un univers d'heroic fantasy sombre sur la violence hégémonique et le pacifisme. Avec Vertigeo, ils mettent en scène une société verticale gérée par une dictature où l'État et les nantis aliènent les ouvriers devenus quantités négligeables et sacrifiables. Dans ce récit de 136 pages en noir et blanc, ce monde des tours impose les structures métalliques, des hommes enfermés dans leurs combinaisons qui les protègent de la violence des éléments météorologiques. Le récit, crédibilise constamment cette dystopie par la précision de l'organisation sociale, la mise en avant d'un chef de chantier et de sa résistance, une relation texte-image au cordeau. Amaury Bungen reprend cette présence du métal déjà à l'œuvre dans Yon Mud. Les imposantes structures métalliques contrastent dans le dessin avec les présences humaines. La force des dessins tient aussi au lointain, cette capacité à représenter des plans très larges où l'homme est minuscule, les tours imposantes. Le réalisme d'Amaury Bungen joue comme un effet d'amplification de cette fable dystopique. Nous sommes tout d'abord avec Lyod Chéri pour qu'il nous présente ses coulisses de sa première bande dessinée, puis nous serons vers 14h30 avec Amaury Bungen pour qu'il nous parle de ses questions de dessin. Bonjour Lyod Chéri.
Bonjour Bruno, merci beaucoup pour cette super présentation de l'album.
Alors, comment on se lance ? Alors vous êtes rédacteur en chef de Métal Hurlant, la bande dessinée est quelque chose de très proche, mais pour franchir le pas d'un récit, d'une adaptation et de devenir scénariste.
Alors ça a été assez long, j'ai dû prendre un peu mon temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en 2020 et 2021, j'ai dirigé un ouvrage qui a très bien marché, qui s'appelle Le MOOC Dune et qui est devenu Tout sur Dune, qui était en fait un ouvrage de référence autour de la science-fiction. On en a vendu à peu près 23 000 exemplaires. Et donc grâce à ça, j'ai pu avoir une crédibilité vis-à-vis des éditeurs. Et donc quand j'ai voulu adapter Vertigéo en bande dessinée, c'est sûr qu'avec le MOOC Dune plus le podcast, les éditeurs se disaient pourquoi pas, on peut lui faire confiance. Donc il a fallu déjà gagner un peu la confiance de mes pairs pour proposer ce projet d'adaptation que j'ai découvert moi en 2017. Donc c'était dans un recueil qui s'appelait Demain le travail. J'ai fait un article dans Le Point, puisque j'étais à ce moment-là journaliste pour Le Point. Et puis, il a fallu attendre 5 ans avant de signer un contrat d'édition pour adapter cette bande dessinée. Et en fait, j'ai découvert Iron Mud, vous en avez parlé. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux des dessins d'Amaury. Et je me suis dit que c'était la meilleure personne pour pouvoir représenter cette tour géante et terrifiante.
Alors, Lyod Chéri, qu'est-ce qui vous a plu dans cette nouvelle d'Emmanuel Delporte ?
Alors, j'ai été très marqué par la chute, qu'on va pas raconter à l'antenne, mais la fin m'avait beaucoup marqué. Il y avait quelque chose, il y avait une ambiance qui me plaisait, cette humanité qui est obligée de travailler ad vitam aeternam dans une tour. Ça, moi, dans mon imaginaire, ça me plaisait bien. Et puis, il y avait quelque chose d'efficace. Et c'est vrai que je m'étais dit, si moi ça m'a plu en 35 pages, je suis sûr qu'un lecteur de bande dessinée sera un petit peu marqué par ce récit. Et puis il y avait quelque chose de radical dans ce propos. Et je pense qu'il est important maintenant, au vu de la surproduction de la bande dessinée, que c'est important de proposer des récits un peu radicaux qui vont marquer un peu l'esprit des gens. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un discours. Enfin, en tout cas, la bande dessinée a quand même une critique du monde du travail et une critique des élites. Et il suffit juste d'ouvrir l'actualité pour se rendre compte que finalement, sur la critique des élites, on n'était pas très très loin.
Alors, le récit commence par un cataclysme, et puis on est évoqué la reconstruction, la spécialisation des différents humains, et puis une organisation sociale dont on va découvrir le fonctionnement, qui s'appelle donc Vertigéo. Comment avez-vous organisé le découpage donc pour présenter à la fois le cataclysme et puis cette organisation sociale très, très radicale, comme vous l'avez dit?
Oui, alors en gros, Emmanuel Delporte, donc l'auteur de la nouvelle, avait déjà imaginé tout ça. Nous, le challenge pour nous a été donc de comment raconter un court récit de 35 pages en un espèce d'univers crédible qui allait faire 135 pages. Donc on a gardé pas mal de choses de la nouvelle, notamment les différents métiers qu'Emmanuel évoque. Donc il y a le chef de chantier, des ouvriers, il y a spécialiste pour tout. Et donc, en termes de découpage, bah, ça a été un vrai travail. Moi, je me suis occupé du pré-découpage. Donc, je faisais des propositions de découpage à Amaury et Amaury gardait ce qu'il voulait ou pas garder. Et c'est vrai qu'il fallait vraiment être efficace. Alors, ce qu'on a fait, c'est que l'album est divisé en 7 chapitres. Et donc, j'ai été très influencé par l'écriture un peu des comics américains ou des mangas japonais. Ça veut dire que chaque chapitre pouvait être suffisant, avec un début, un milieu et une fin, et avec une envie quand même à la fin de chaque chapitre, avoir une envie de tourner la page pour suivre l'aventure. Mais c'est vrai que le travail a vraiment été de rendre cet univers crédible, notamment par des grandes planches, notamment par de la voix off, et puis aussi choisir des moments de vie de ces ouvriers pour faire croire que tout ça existe bel et bien. Donc ça a été un vrai challenge à ce niveau-là, mais je suis content parce que d'après ce que j'ai entendu, ça a l'air d'avoir plutôt marché pour vous.
Je confirme, ça marche bien. Alors, Lyotchere, quel document fournissez-vous à Maury Budgen?
Alors, j'ai un scénario qui est découpé. Donc, pour que les auditeurs s'imaginent bien, ça va être case 1, plan. Enfin, je vais donner des valeurs de plan. Grand plan, plan général, plan moyen, plan américain. On reprend un petit peu la formulation du cinéma. Moi, dans mon scénario, il y a beaucoup d'images. Donc, j'intègre beaucoup d'images de films, de séries, de BD, de manga, comme des intentions. Donc, du coup, c'est pour préciser au maximum à Amaury qu'est-ce que je souhaite en intention, et puis après, évidemment, Amaury, il décide de qu'est-ce qu'il veut garder. Il y a les dialogues, et puis une fois que cette partie du scénario est terminée, on fait des allers-retours avec Amaury, où il me dit ce qu'il aime, ce qu'il aime moins, et ensuite on réécrit, et puis derrière arrive le moment du storyboard, qui est hyper important, puisque le storyboard d'Amaury est déjà très préparé. Donc comme Amaury travaille en numérique, l'idée c'est qu'après on valide les choix de plan et de mise en scène, pour qu'il puisse ensuite aller rapidement sur le dessin terminé. Puisqu'en fait, ce qu'on s'imagine pas trop, mais le moment où vous signez votre album, c'est un peu la course contre la montre, quoi. Vous avez un an et demi pour le terminer, et donc il faut aller pas le plus vite possible, mais en tout cas être le plus efficace possible pour pouvoir rendre les planches à l'heure et pour que l'album sorte au bon moment.
Alors, comment travaillez-vous les dialogues? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes au moment de l'écriture, de l'adaptation et du storyboard, ou est-ce qu'il y a une relecture une fois les images finalisées, Lyotchere?
Alors, il y a eu un mélange. Ça veut dire que moi, j'ai repris beaucoup de la nouvelle. J'ai pris beaucoup de... Il y a pas mal de voix off dans les... On a des doubles pages chapitres avec des extraits de la nouvelle. Ça m'est vraiment arrivé de prendre beaucoup de la nouvelle puisqu'elle était quand même bien écrite. Et puis après, de mon côté, il y a beaucoup de réécriture. Ça veut dire que le plus difficile est de faire en sorte que vos dialogues sonnent juste, un peu comme au cinéma. Et donc, faut réécrire. J'essaye que ça sonne le plus naturel pour moi. Heureusement, pendant toute cette période-là, je regarde beaucoup de films et de séries parce que je suis toujours fasciné par... notamment par nos amis anglo-saxons, d'arriver à être aussi juste quand les dialogues sonnent. Et donc, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut réécrire, et puis il faut essayer que chaque personnage ait soit des expressions, soit une façon de parler qui lui est propre, pour qu'il y ait une espèce de diversité du langage, pour que ça sonne juste.
Lyotchere, est-ce qu'il y a une difficulté à devenir scénariste? Pour vous qui êtes journaliste, mais très immergé dans les littératures de l'imaginaire.
En fait, finalement, écrire un scénario, c'est un peu comme écrire un article de presse. Vous devez avoir une bonne accroche, vous devez faire attention avec vos transitions entre les parties, et il faut une bonne chute. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture d'un scénario, et puis évidemment en termes de rythme, c'est important de garder le rythme pour que le lecteur ait envie de tourner la page, et puis une planche de BD, en tout cas une histoire de BD, se raconte sur deux planches finalement, la page de droite et la page de gauche, et puis voilà, etc. La difficulté pour moi, c'est que quand même, je suis spécialisé en science-fiction depuis quelques années, et donc du coup l'angoisse, c'est de faire un récit de science-fiction crédible vis-à-vis de vos amis auteurs de science-fiction ou de scénaristes de science-fiction, et pas être trop ridicule. Donc pour moi, l'enjeu était plus de faire quelque chose qui soit honnête, qui soit une vraie série B, qui se lise d'un coup, qu'on ne monte pas au lecteur, parce que c'est vrai que moi, je suis un gros lecteur de SF, et beaucoup de choses ont été réalisées, hein. On pense à Herbert, à Asimov, je pense à Hyperion de Dan Simmons. Enfin voilà, il y a des centaines d'œuvres d'OSF qui sont vraiment fortes. Donc bon, moi c'est vraiment petit à petit, hein, c'est une première étape, c'est une première expérience. Donc l'idée était de faire quelque chose de solide et d'être le respectueux pour le lecteur, qu'il n'ait pas le sentiment que je lui ai volé 22 euros, quoi. Et vraiment d'essayer de lui donner un récit le plus complet possible. Au début, il ne devait pas avoir évidemment de suite, hein, c'était un one shot. On est dans une époque où c'est compliqué, hein, de faire des séries en bande dessinée. On a quand même eu de très très bons retours, l'album démarre bien, on réimprime. Donc avec Amaury, peut-être on réfléchit à pourquoi pas faire une autre histoire dans l'univers de Vertigéo qui se passerait 20 ans après. On a beaucoup vu les victimes dans cet album de Vertigéo, et on se dit pourquoi pas montrer le côté des oppresseurs pour qu'on ait quelque chose comme un diptyque avec on va dire une boucle, et donc ça, on y réfléchit, mais on attend de voir. Mais c'est vrai que ouais, pour moi, là, la difficulté et l'angoisse étaient plutôt de faire un récit où on se souvient un petit peu et de pas juste faire une bande dessinée qui va s'empiler sur les étals des libraires et être oublié, parce que bah il y a 7000 albums qui sortent par an, et donc c'est compliqué d'arriver à survivre devant cette surproduction.
Alors, bon, vous avez en partie répondu sur ce que va permettre ce livre, Vertigéo. Là, vous êtes parti d'une matière narrative préexistante. Est-ce que vous vous sentez complètement lancé pour aussi imaginer vos propres univers ?
Alors, dans le cas de Vertigéo, si on y revient, bon, bah, je connais bien l'univers, donc je me sens quand même pas mal à l'aise. Et c'est vrai qu'avec Amaury, on était un peu frustrés dans le sens où, bah, au bout de 136 planches, on commence à bien maîtriser la tour, les personnages, les costumes. Donc c'est vrai que je pense que tous les deux, on avait envie un peu d'y revenir. On avait un petit passement au cœur, en fait, de laisser cet univers-là. Ensuite, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir tôt ou tard passer à ses propres univers. Et moi, je suis bien dans l'adaptation pour commencer, parce qu'on a envie quand même de... Voilà, c'est plus facile, en fait, d'avoir un scénario déjà existant et puis... juste d'augmenter le roman ou la nouvelle avec ses idées à soi, c'est assez agréable. Mais c'est vrai que bah il y a une envie quand même de pouvoir proposer ses propres histoires. Et je peux vous donner un petit scoop. Il y a une réflexion en ce moment avec le dessinateur Olivier Ledroit, celui qui a fait les chroniques de la Lune Noire et puis qui a fait Requiem, de pourquoi pas faire une histoire tous les deux, un one shot. Donc on est en discussion, donc voilà. Donc il se peut que dans quelques années, il y ait sûrement une autre. C'est sûrement un autre univers qui arrive.
Alors, Lyot Chéri, précisément dans le quotidien, est-ce qu'il y a des discussions importantes, une complicité avec Amaury pour cette unité, cette cohésion d'ensemble qui est très importante et qui joue pleinement dans Vertigéo ?
Alors oui, déjà, pour moi, c'est le bon projet pour le bon dessinateur. Et donc, c'est hyper important d'apprécier ce que fait le dessinateur. Amaury, c'est quelqu'un qui a commencé sur le tard, à plus de 40 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Que ce soit Iron Mud ou Le Rite, c'est vraiment des chouettes albums. Et donc, il fallait qu'on s'entende bien et en tout cas qu'on se respecte. Ensuite, le challenge, c'est de chacun évolue, c'est d'avoir vraiment une écoute aussi des envies des uns et des autres. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des moments où c'est un peu tendu. La fin de l'album, ça a été quand même très tendu. Amaury en parlera peut-être, mais c'est vrai que c'était un moment où on était hyper stressé. Il fallait rendre 15 planches, et c'est un moment où on peut très 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 vite, je pense, s'embrouiller et se discuter, parce que c'est évidemment le dessinateur qui a à la fin un gain de cause. Hein, c'est lui qui dessine, et c'est là où c'est important de bien s'entendre et de se respecter, parce que comme ça, on se fait confiance, et même dans les moments un peu tendus. Eh ben, on arrive à discuter, à dialoguer. C'est le plus important, de toute façon, hein. C'est vraiment parler, réécrire et mettre son ego de côté, que le scénariste soit pas une espèce de quelqu'un, on va dire, très rigide, comme j'ai déjà pu entendre ce genre d'histoire, ou même changer deux phrases, ça va pas. Non, moi je pense que c'est une collaboration à deux. De toute façon, à la fin, in fine, t'es deux personnes à proposer ce projet, et on est plus forts tous les deux que tout seul. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a vécu dans les années 80, 90, un âge d'or des scénaristes. Maintenant, on est plutôt à l'âge d'or des auteurs complets. Les auteurs n'ont plus beaucoup besoin de scénaristes, et donc je pense que le scénariste doit faire pas mal d'efforts aussi pour se rendre désirable, et donc notamment s'occuper aussi pas mal de la promotion, Moi, j'ai quand même pas mal proposé de choses pour le marketing, pour, on va dire, promouvoir l'album, et donc pas forcément que écrire un scénario et puis dire à Amaury, une fois que c'est écrit, allez, salut Amaury, à dans 2 ans ou dans un an et demi quand on aura terminé, mais vraiment d'accompagner la personne jusqu'au bout. Dans le cas de Vertigeo, c'est vrai que moi, j'avais pas tout écrit. On a vraiment travaillé comme des mangaka, dans le sens où je finissais un chapitre, j'envoyais à Amaury, une fois qu'Amaury avait terminé, lui, de dessiner, je renvoyais un nouveau chapitre. Donc ça a vraiment été au fur et à mesure qu'on a fait l'histoire. Et j'ai pas seulement juste envoyé un scénario déjà fait et dire « salut ». Voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper important de s'entendre parce que quand même, il y a un peu les montagnes russes émotionnelles. Et puis, bah, si le projet marche, là, ça fonctionne. Donc on est hyper heureux, ça va super. Mais si ça n'aurait pas marché, on aurait été deux à soutenir vis-à-vis de ça.
Merci beaucoup, Lio Thierry. C'est Amaury qui va prendre votre suite après cette pause musicale. Merci. À très
merci
bientôt.
Bruno, et puis au plaisir de se rencontrer en vrai. Merci.
Tout
à
fait. Au revoir, Lio.
Au revoir.
Freezing and the water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah.
We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh it is reckless and pointless, but it's also very fun. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous étions en direct avec Lio Thierry, le scénariste de Vertigeo. Et maintenant, nous sommes avec Amaury Bungen, le dessinateur. Bonjour Amaury Bungen.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors, est-ce que déjà je prononce bien votre nom? C'est Bungen ou Bungen?
Bungen. Bungen. Oui, oui.
Parfait. Alors, comment avez-vous reçu cette proposition de scénario alors que vous avez fait deux albums, deux romans graphiques importants, Yann Mud et Le Rite en tant qu'auteur complet?
En fait, c'est parti d'une envie d'une part de travailler avec Lloyd, et ça me permettait au passage de voir si je pouvais travailler avec un scénariste, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être que dans le futur, une collaboration arrivera. Donc c'était à la fois le projet m'a plu, forcément l'histoire était vraiment bien et j'étais partant pour l'adapter, et il y avait cette envie de faire un essai avec un scénariste, voilà, pour changer un petit peu d'approche.
Alors, quand vous avez découvert la nouvelle d'Emmanuel Delporte, est-ce qu'il y a déjà des images qui apparaissent, qui se mettent en place à Maury Bedjian?
Oui, tout de suite, très rapidement. C'est une nouvelle qui est très, très efficace de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a tout de suite le monde qui apparaît en fait dans notre tête, ce monde brutal, mécanique. Féreux, on pourrait dire, c'est tout est en fer. Oui, on a tout de suite des images. Après, l'idée, c'est de trier, de les trier, et puis d'en choisir. C'est toujours pareil, parce qu'on peut pas, dessiner des idées. En fait, il faut vraiment dessiner des choses visuelles. Donc voilà, il y a tout un travail de design, et en fait, qui consiste à préciser ce qu'on avait en tête. C'est un peu compliqué, mais c'est un exercice assez difficile. Et c'est intéressant de le faire avec Lloyd.
Alors, Lloyd Sherry nous a expliqué les documents qu'il vous communiquait. Comment vous les recevez et comment construisez-vous votre découpage qui est celui que le lecteur va lire dans le roman graphique?
Alors, en fait, on a travaillé par chapitre, comme j'ai dû vous le dire,
oui.
Et il m'envoyait en fait le chapitre une fois que c'était fait, et il y avait effectivement une amorce de découpage, c'est-à-dire qu'il m'indiquait le découpage qu'il aurait souhaité, mais c'était complètement ouvert à la discussion. Si je trouvais mieux, si je trouvais plus efficace, il était absolument pas contre un changement. Donc moi, je lui faisais mes retours, on tombait d'accord, et puis après, on proposait ça à notre éditeur qui nous faisait ses retours. Également. Et puis après, je passais au storyboard directement. Voilà.
Alors, il y a dans Vertigéo une opposition permanente entre la structure métallique de la tour et puis les humains. Alors, bon, dans Yanmud, on a aussi ce vaisseau immense. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ces structures métalliques, ces perspectives, ces points de fuite qui créent des espaces très importants?
Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui me plaisait là-dedans. Je dirais que d'une part, c'est pas trop dur à dessiner. En numérique, en tout cas, il y a des outils qui sont très pratiques pour les points de fuite et choses comme ça. Et peut-être qu'il y a aussi cette idée de mettre en valeur la fragilité de tout ce qui est organique dans une structure très technique et très métallique, en fait. Et je pense que ça fait ressortir un petit peu... Enfin, ça convoque un stress, un petit peu comme dans le film Alien, où les humains sont très fragiles dans ce vaisseau spatial, tout en métal également. Bon, ça parlait des xénomorphes, mais voilà, ça, je pense que c'est ça, mais j'y avais vraiment pas vraiment réfléchi. Je pense que c'est ce qui me plaît, oui.
Alors, il y a Amaury Bedjian dans votre... Dans votre dessin et dans vos cases, une utilisation du lointain qui est très importante, et ça dès Yanmud, dès votre premier livre, où on a vraiment une mise en contexte où les personnages peuvent être minuscules. Qu'est-ce que vous permet cette utilisation du lointain pour vous dans votre dessin?
Elle permet un rapport d'échelle, je pense. Je crois qu'on rejoint l'idée précédente de montrer à quel point l'être humain peut être petit, même dans une structure artificielle. Il est toujours très petit dans une structure naturelle ou dans la nature, mais en fonction de l'échelle, oui, il peut être vraiment très petit, et ça donne une impression. Alors, pas de claustrophobie, pour le coup, c'était pas l'idée. Dans Iron Man, en tout cas, mais ça donne une idée de fragilité. Et dans Vertigéo, oui, c'est peut-être plus claustrophobe bizant, si on peut le dire. Mais voilà ce que ça me permet, ouais, c'est de parler de cette fragilité de l'humain, ouais, pour que le lecteur se sente un petit peu en danger en même temps que lui.
Alors, Amaury Budgen, est-ce que comment ça s'est passé le dessin des premières pages de cet apocalypse, de ce cataclysme? Comment, qu'est-ce que vous renvoyez les images? À quel moment vous vous y dites, là c'est bon, ça fonctionne?
Dans Vertigéo. Hein.
Dans Vertigéo.
Ouais. En fait, je pense qu'on avait j'avais des consignes de Lloyd, voilà, case 1, champignons nucléaires, des choses comme ça. Après, ça m'a demandé c'était un peu compliqué parce que j'avais jamais vraiment travaillé en lavis d'encre. Ça a été un petit peu dans la douleur, mais en fait, le résultat marche plutôt pas mal. Et ça s'y prête bien, en fait, ça fait un rendu un petit peu réaliste, même très réaliste, ouais, sur les nuages, sur les choses comme ça. Et je me rappelle trop bien de la question.
Alors, ben c'est ouais. À quel moment on s'arrête? Parce qu'on pourrait...
Oui. On s'arrête, oui, quand il faut passer à la suivante. Mais c'est vrai que j'aurais eu tendance à rajouter plein de détails à ce moment-là. Ouais. C'est un peu le piège de la vie. Ouais. Quand on aime bien fignoler comme moi, ça peut très vite partir très loin. Ouais. Que ce soit pour les immeubles, les petites fenêtres, toutes les fenêtres de chaque immeuble... Ou le gros nuage de fumée, ou même le raz-de-marée, là. Ça m'a demandé beaucoup de temps, en fait. C'était un peu chronophage, mais bon, potentiellement, ça m'a aussi donné envie de faire un album avec cette méthode, donc c'était bien d'essayer, quoi.
Alors, votre dessin est réaliste, comme dans les deux autres histoires, les deux autres romans graphiques. Qu'est-ce qui vous plaît dans le réalisme, dans cette façon d'authentifier ces mondes imaginaires?
Ce qui me plaît, bon, c'est vraiment ce que j'aime en tant que lecteur. Déjà, toutes les histoires réalistes, le dessin réaliste, c'est ce qui me plaît. Après, je peux tomber en admiration devant des choses un peu plus épurées, mais c'est quand même vers ça que je vais aller instinctivement. Petit, je lisais beaucoup les albums Tintin, les recueils Tintin, pas Tintin de Hergé. Hein. Et il y avait beaucoup de cette bande dessinée, avec un trait réaliste, hein, pour finir. Donc je pense que ça m'a un petit peu façonné dans ce sens-là. Et puis, en fait, c'est paradoxal, mais c'est peut-être plus simple pour moi d'essayer de coller au réel que de chercher un style en fait qui des fois qui passe par des années de travail, des purs, du trait. Enfin, il me semble que c'est plus compliqué de dessiner comme Gauprat que comme il le fait en essayant d'être réaliste. Mais voilà, parce que c'est un travail, un truc qu'il faut faire et que j'ai pas encore fait. Donc pour l'instant, je me cantonne à dessiner ce que je vois ça marche avec les projets que j'ai signés pour l'instant. Ouais.
Alors, quel dessinateur êtes-vous, Amaury Budgen? Comment êtes-vous sur votre table à dessin?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, est-ce que c'est très intense? Est-ce que il y a une énergie? Est-ce que vous la contenez? Au contraire, vous êtes très serein et avec la musique que vous nous avez proposée?
c'est très variable en fait. Ça peut être très intense quand il y a des passages qui posent problème et ça arrive. Ça peut être très détendu si c'est une séquence qui va toute seule. Dans tous les cas, ouais, c'est beaucoup de concentration. J'ai un peu de mal à... Quand je suis parti dans le dessin, ouais, par exemple, un coup de fil va me faire complètement sortir du truc et c'est assez compliqué d'y retourner. Donc ça vient pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, ouais, je suis très concentré. J'écoute plus du tout ce qui se passe autour. La musique, c'est en fond, mais c'est un travail très, très... de concentration intense, je pense. Ouais.
Alors, dans Vertigéo, il y a une utilisation de la lettre à travers l'onomatopée, mais pas seulement, une attention à la lisibilité du texte. Alors, comment travaillez-vous le lettrage, Amaury Budgen?
Le lettrage, pour les onomatopées, par exemple.
Par exemple, parce qu'elles sont variées.
Des lettres qui sont un petit peu tremblées pour montrer que le son est strident. Bah, là, en fait, je me base sur des choses assez classiques, hein, que j'ai déjà vues dans d'autres albums. Je sais qu'il y a j'ai un axe d'amélioration là-dessus. Il y a des auteurs qui sont très, très, très forts pour que l'onomatopée représente presque le son, en fait. Hormis le texte, au-delà du texte, je veux dire. C'est dans la forme, dans le placement, voilà, moi c'est quelque chose que je fais de façon un peu instinctive pour l'instant. Voilà, je pense que je peux encore améliorer ça, ouais, a priori.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était donc votre première collaboration avec un scénariste. Alors, quelle est la conclusion par rapport à maintenant que l'album Vertigeo est édité et en librairie? Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour la suite à Maury Bulgen?
Alors, la conclusion, c'est une petite blague, c'est que je sais que je peux travailler avec Lloyd Sherry, voilà. sur la fin, on était un petit peu pressé, c'était un peu tendu, mais on a réussi à garder la communication, ça s'est bien passé au final, mais je suis pas sûr que ça aurait fait comme ça avec un autre scénariste, donc je sais que je peux travailler avec Lloyd Sherry. Bon, faudra que j'essaye un autre scénariste peut-être pour être certain de faire l'affaire, mais ouais, la conclusion c'est ça. Ouais, après, il est vraiment cool, motivé, passionné. Donc voilà, travailler avec des gens comme ça, c'est toujours super, super agréable en fait.
Et par rapport à vos projets personnels, parce que Yann Mudd comme Le Rite sont des livres importants dont beaucoup d'auteurs seraient satisfaits. Vous allez reprendre une écriture solo?
Oui, le prochain, c'est je retourne à un ouvrage solo de fantasy, réaliste encore. Mais voilà, après, il n'est pas exclu qu'on retravaille avec Lloyd, c'est même, on en parle. Peut-être pour un Vertigeo 2 ou pour autre chose. Donc je pense que je vais faire ça, ouais, je vais faire des projets solo parce que j'en ai quelques-uns, on va dire. Et puis de temps en temps, glisser un petit projet à deux pour changer un petit peu la façon de travailler, enfin un peu de diversification aussi, je pense.
Merci beaucoup, Amaury Bulgen. Je vais rappeler les références de votre livre. Donc c'est Vertigeo, adapté de la nouvelle d'Emmanuel Delporte, mis en adaptation et scénarisé par Lloyd Sherry. Donc vous êtes le dessinateur. C'est publié par les éditions Casterman. Et les 136 pages de ce récit sont au prix de 22 € et il a été imprimé en France. Bah, très bonne continuation à vous.
Merci, vous aussi.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
pour finir, je voudrais vous parler de La Cage. La Cage est un roman graphique de Martin Vaugh James qui a été publié aux Impressions Nouvelles en 1975 et qui vient d'être réédité. Et La Cage a été complétée, donc cette réédition, par une préface de l'auteur et suivie par l'essai de Thierry Grunstein que les Impressions Nouvelles avaient publié qui s'appelle « La construction de la cage ». A été évacuée la postface de Jean-Pierre Vidal qui était une sorte d'explication de ce roman graphique. Et la construction de la cage par Thierry Grunstein est beaucoup plus complète, précise, pertinente. Alors pourquoi rééditer La Cage ? Peu de gens connaissent cette histoire, donc ça fait bientôt 50 ans qu'elle a été publiée. C'est un roman graphique donc d'un auteur, dessinateur, plasticien, donc qui est d'origine australienne et qui a vécu au Canada et qui a réalisé avec La Cage un roman graphique qui est une sorte de texte illustré, puisque les images sont complétées par un texte qui est imprimé, comme dans un texte illustré. Et l'une des caractéristiques essentielles, c'est que La Cage est dépourvue complètement de toute présence humaine. Donc, il y a dans le projet de Martin Vaugh James une influence du nouveau roman, puisqu'il était à cette époque-là très sensible. Il avait lu le livre d'Alain Robbe-Grillet et il y avait une participation à une revue importante qui s'appelait The Projecteur, qui était très ouverte à toutes les expérimentations. Et donc, on a une influence importante qui a amené Martin Vaugh James à la construction de ce récit, où les images vont créer un personnage hors champ, avec l'équivalent de la caméra subjective, comme on peut avoir au cinéma. C'est-à-dire que le lecteur va se placer dans le regard de ce personnage fictif et va regarder les différents lieux, les différentes scènes sous ses yeux et ainsi pénétrer cet univers. Il y a très grande qualité dans le dessin, puisque Martin Vaugh James a choisi de travailler avec un trait d'une grande lisibilité, d'une grande maîtrise, une sorte de ligne claire, posée, qui va donner à chaque image une puissance, une intensité et un temps figé. Et c'est ce temps figé qui va être, avec la succession narrative de l'ensemble des images. Alors on va avoir par exemple des lieux qui vont être qui vont occuper la double page, mais à aucun moment on aura une seule image, il y aura toujours une image par page avec ce trait de contour qui va fermer le lieu, même si il y a une continuité dans le dessin d'une case à l'autre. C'est une des grandes caractéristiques de la bande dessinée, de pouvoir fracturer un espace et ainsi créer un temps entre les deux. Il y a un récit qui va complètement surprendre, parce que vous n'aurez de toute façon depuis 1975 rien lu d'équivalent. Il y a des auteurs qui sont aussi dans des recherches. Je pense à Ian McGeer qui avait eu un prix à Angoulême avec ce récit sur l'histoire d'un lieu. Et La Cage est un récit, donc cette absence de situations facilement identifiables, cette absence de représentation d'individus, cette solitude appuyée par ces espaces sans humain, et puis ces perturbations de l'espace qui arrivent tout au long du récit, avec un ensablement d'une pièce, avec des envahissements, une éclaboussure qui va se répandre, des déplacements, des fissures, et un temps qui va s'étirer et qui va se décaler par rapport à la réalité. C'est finalement un livre qu'il était essentiel de rééditer. Les impressions nouvelles, avec cette préface de Martin Vogt-James qui présente les choix, les partis pris et le projet de la cage, et puis cette analyse de Thierry Grunstein, fait que cette réédition est tout à fait la bienvenue. La cage est véritablement un sommet. C'est donc un livre qui est publié par les Impressions Nouvelles. Il fait 240 pages. Son prix est de 25 euros. Merci, merci Fabien pour cette technique. Et ces deux invités, c'est jamais très pratique. Mais voilà, c'est bien de pouvoir le faire. Et donc, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.